Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un haut responsable de la Curie romaine en visite au Liban pour exprimer la proximité et le soutien du siège apostolique à la communauté chrétienne éprouvée par le conflit syrien. Le cardinal Sandri invoquera la protection de la reine de la paix sur tout le Moyen-Orient. Vous entendrez l'évêque chaldéen d'Alep. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, quant à elle, se réunira le 15 janvier avec une délégation d'évêques américains et européens. Ces derniers rencontreront également des membres du corps diplomatique et des représentants de la communauté internationale à Tel Aviv. La communauté catholique Santé Gidio mobilisée en faveur du Soudan du Sud, alors que le nombre des déplacés et des réfugiés ne cesse d'augmenter, les États-Unis se sont alarmés d'un risque d'éclatement de cette jeune nation. Le Vatican fait un nouveau geste pour exprimer son soutien aux chrétiens de Syrie et de la région. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a fait le déplacement jusqu'au Liban pour présider personnellement ce samedi la consécration épiscopale du nouveau vicaire apostolique d'Alep, Mgr Georges Aboukazen. Plusieurs évêques participeront à la célébration en l'église Saint-Louis de Beyrouth, dont les nonces apostoliques en Syrie et au Liban, ainsi que le responsable de la custodie de Terre Sainte, le père Pizzaballe. Le séjour au Liban du cardinal Leonardo Sandri se déroule du 10 au 13 janvier. Dimanche, le cardinal préfet présidera l'Eucharistie dans la vallée de la Beka, puis il se rendra à Marjayoun pour apporter son réconfort aux réfugiés syriens et offrir une contribution à l'association de volontaires pour le service international qui leur vient en aide. Sur son chemin, il visitera également un sanctuaire marial près de Saïda où il renouvellera l'acte de consécration à la Mère de Dieu. Hélène Détombe a joint par téléphone l'évêque chaldéen d'Alep, Mgr Antoine Odo, alors qu'il se rendait en voiture à Beyrouth pour participer à la consécration épiscopale du nouveau vicaire apostolique.
Je suis convaincu que la venue, le déplacement du cardinal Sandri, c'est un signe en plus de solidarité. C'est quelque chose qui est très significatif et très apprécié.
Ce n'est pas le premier geste du Saint-Siège envers le peuple syrien. Il y aura lundi prochain une rencontre au Vatican sur la Syrie. Cette attention du Saint-Siège envers la communauté chrétienne syrienne, le peuple syrien, elle est perçue en Syrie ?
Je crois que oui. C'est-à-dire, voilà, le peuple syrien, il est quand même très secoué par tout ce qui se passe. L'insécurité, la crise économique qui pousse les chrétiens, malheureusement, à l'émigration. D'un côté, ils sentent cette proximité du Saint-Siège. Mais en même temps, je vous dis franchement, on a l'impression qu'on ne voit pas beaucoup de résultats sur le terrain. On est comme découragé. Bien sûr, on a beaucoup apprécié le geste du pape le 7 septembre quand il a appelé aux jeunes et à la prière sur la paix Saint-Pierre. Ça a beaucoup marqué. Mais même les musulmans qui ont fait appel à une journée de jeûne aussi. Mais on attend. Si vous voulez, les gens disent finalement le bon Dieu et la Sainte Vierge vont nous sauver, ils vont nous aider. Mais en même temps, on dit il faut vraiment un miracle pour pouvoir s'en sortir. Voilà le sentiment des gens que je perçois autour de moi.
Dans deux semaines aura lieu la deuxième conférence sur la Syrie en Suisse, la conférence de paix. Il y a beaucoup d'attentes, le peuple syrien attend beaucoup de cette rencontre.
Je crois qu'il y a les deux sentiments. D'un côté, on attend beaucoup qu'il y ait vraiment une décision tranchante, une décision effective pour qu'il y ait un changement, un nouveau départ, surtout un cessez-le-feu et un vrai dialogue pour la réconciliation, pour les réformes, pour la reconstruction. Mais en même temps, les destructions sont telles, les victimes sont telles, qu'on se demande comment on va guérir toutes ces blessures. Il y a les deux sentiments, un sentiment de grande foi dans la Syrie, dans son avenir, dans le soutien des Nations Unies, mais en même temps, une peur de cette guérison, une peur de la possibilité de cette réconciliation. mais les gens en général, ils sont braves et ils croient profondément à un miracle, que finalement, comme la prière du Saint-Père sur la place Saint-Pierre a arrêté une attaque militaire catastrophique, de même, comme ça, une foi profonde, une détermination trouvera un chemin de paix et de réconciliation.
Comment les chrétiens peuvent-ils contribuer à construire la Syrie de demain ?
Déjà, les chrétiens, par leur comportement, ils ont choisi la Syrie, ils ont choisi la société syrienne, ils ont choisi toutes les valeurs qui font de la Syrie un beau pays, un pays de grande valeur. Ils ne se sont pas mis d'un côté ou de l'autre, surtout dans le sens de solidarité, de service des plus éprouvés. Ils se sont beaucoup engagés. Donc, je suis convaincu que les chrétiens doivent indiquer ce chemin de vraie citoyenneté, être de vrais croyants et de vrais humains, ne pas se laisser enfermer dans un esprit de confessionnalisme, dans un esprit de tribalisme qui exclut l'autre.
C'était Mgr Antoine Odo, l'évêque chaldéen d'Alep. Je vous rappelle par ailleurs qu'une conférence sur la Syrie aura lieu ce lundi au Vatican, au siège de l'Académie pontificale des sciences. 8 experts internationaux ont été invités à y participer. Par ailleurs, c'est ce samedi que commence la visite annuelle de la Coordination pour la Terre Sainte. Une délégation des évêques de l'Union européenne, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud se rendra du 11 au 16 janvier à Jérusalem, Tel Aviv, Bethléem, Gaza, ainsi que dans la vallée de Crémizan. Ces visites sont organisées depuis 1998 par la Conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de Galles, sous le parrainage du Conseil des Conférences épiscopales d'Europe, dans le but de freiner l'hémorragie des chrétiens de Terre Sainte. Olivier Bonnel.
La vallée de Crémizan est une région agricole proche de Bethléem, dont la beauté et les produits sont bien connus. Cet espace vert, sans lequel la population de Bethléem ne peut pas respirer, sera défiguré par une muraille bétonnée de 8 mètres de haut, parsemée de tours de guet. Le passage de la barrière de sécurité israélienne entre les villages et les champs menace la survie d'une cinquantaine de familles chrétiennes. Le monastère et le couvent où les sœurs salésiennes animent une école, accueillant 450 enfants défavorisés, seront coupés de leur environnement naturel, ainsi que de la population locale. La délégation se rendra à Crémizan pendant son séjour. Elle ira aussi à Gaza pour rencontrer la toute petite communauté chrétienne locale et les responsables de la société civile. Elle visitera le village à majorité chrétienne de Beit Sahour, asphyxié économiquement, à l'instar des autres villes de Cisjordanie. Lancée en 1998, ces visites annuelles visent à approfondir la connaissance des réalités sociales, politiques et ecclésiales de la Terre Sainte. Il s'agit de soutenir plus efficacement les efforts de l'Église locale et des organisations catholiques en faveur de la justice et de la paix, ainsi que de la mission du nonce apostolique, en particulier en ce qui concerne les accords fondamentaux et de base. Les journées seront rythmées par de nombreux moments de prière, par des rencontres avec les communautés locales, avec les prélats catholiques des différents rites, les étudiants des écoles et des universités chrétiennes, ainsi qu'avec les autorités locales.
Au Soudan du Sud, la situation a continué de se détériorer. Les combats engagés entre les partisans du président et de son ancien numéro 2 se sont propagés dans 7 des 10 États du pays. Cette semaine, une délégation de la communauté de santé Djidio a rencontré à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, les leaders des deux partis qui s'affrontent dans la crise au Soudan du Sud. Ce déplacement avait pour but de leur permettre d'évaluer la situation, de reprendre contact avec les acteurs du conflit et de soutenir la médiation en cours. Une médiation qui ne se passe pas sans difficulté, comme l'explique Mauro Garofalo, des relations internationales de la communauté catholique.
Pendant la négociation, il y a des affrontements dans le terrain. Et nous le savons bien que même aujourd'hui, il y a des morts au nord de Djouba, à 15 km de bord. Il y a les prisonniers politiques des rebelles qui sont à Djouba, prisonniers par le gouvernement. Il y a les rebelles qui attaquent les villes. La plus grande difficulté, c'est dans la situation générale du pays. C'est un pays qui a obtenu l'indépendance contre tout le monde. Donc ils ont obtenu quelque chose qui c'est presque un miracle. Mais ils n'ont pas vraiment bâti l'État, ils n'ont pas vraiment bâti l'unité. Donc c'est surtout ça. On parle toujours des affrontements, mais ce n'est pas un affrontement interreligieux, car tout le monde est chrétien. Je pense que ce n'est même pas un affrontement ethnique, c'est surtout un affrontement politique sur la partition de pouvoir.
Quelles pourraient être les conséquences donc, de ce problème politique au niveau humanitaire sur les populations?
Les conséquences conséquences sont déjà bien évidentes, dans le sens qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de réfugiés, il y a déjà quelqu'un qui parle de plus de 1000 morts, donc c'est terrible la situation humanitaire, mais ça va. C'est passé dans une situation déjà fragile, déjà un peu déstabilisée, donc c'est la pire situation qu'on peut trouver.
Et est-ce que vous pensez que si cette crise ne trouve pas d'issue, ça pourrait mettre en danger ce tout nouvel État ?
L'État est déjà en danger, dans le sens qu'après quelques années, après quelques mois de l'indépendance, ils sont déjà en crise. Ils sont en train de jeter dans la poubelle vraiment tout ce qu'ils ont obtenu dans les accords. Donc il faudra les aider à retrouver au moins quelques formes de coopération. Maintenant, la seule forme de coopération, c'est les affrontements sur le terrain. Donc c'est ça qu'il faut avant tout se résoudre et puis on va voir. Mais la situation, c'est très difficile.
Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas demander de soutien de forces extérieures ?
Avant tout, il faudra le demander à l'Union africaine. Ce n'est pas par chance que les négociations ont lieu à Addis Abeba. La seule voie, la seule façon de solution que je vois, c'est un dialogue politique. Car il s'agit du même parti. Donc c'est entre eux qu'il faudra trouver la voie de se parler, de se coopérer encore une fois. Sur l'intervention, quand il y aura un accord de cesser le feu pour partager le pouvoir, après on va voir, mais c'est surtout sur la médiation politique entre les deux.
Mauro Garofalo, des relations internationales de la communauté catholique Sant'Egidio, interrogé par Audrey Aradondi. Les Marseillais la surnomment la Bonne Mère. Son regard rassurant domine la ville, les îles et la Méditerranée. Sa statue resplendissante est plus qu'un symbole. Le 8e centenaire de la basilique de Notre-Dame de la Garde est un événement pour Marseille et pour toute la France. À l'occasion de l'année mariale, qui se poursuivra jusqu'au 7 décembre 2014, le pape François a fait parvenir un message à l'archidiocèse pour souhaiter que ce jubilé redynamise la confiance des Marseillais à l'égard de la Bonne Mère. À l'origine du sanctuaire, il n'y a eu ni miracle ni apparition, mais la dévotion d'un simple prêtre, Cyprien Viette.
1214, c'est l'année de la célèbre bataille de Bouvines. C'est aussi celle de la naissance de Saint-Louis, roi de France. Cette année-là, un prêtre marseillais, Pierre, décide de faire construire un petit sanctuaire dédié à la Vierge sur le sommet rocheux d'une colline située en face du bourg. Cette colline qui portait déjà le nom de La Garde en raison de la présence d'une tour de vigie. Notre-Dame de la Garde deviendra très vite la protectrice des marins et des pêcheurs. Il faudra attendre la moitié du XIXe siècle pour que le petit sanctuaire soit transformé en basilique sous l'impulsion de l'évêque Mgr Eugène de Masneau. Elle sera complétée et consacrée en 1864 et deviendra le lieu phare du diocèse, un patrimoine cher à tous les Marseillais. L'année mariale a comme devise la grâce de la rencontre, car l'archevêque de la ville, Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, veut aussi mettre l'accent sur le côté multiculturel de Marseille. Il invite ses fidèles à prier toute l'année pour que ces diversités ne se transforment pas en opposition, mais en enrichissement. Pour que les Marseillais résistent aux tentations de violence, aux peurs, aux haines, aux propos inacceptables et deviennent eux-mêmes des artisans de paix. Chaque année, Notre-Dame de la Garde attire des dizaines de milliers de visiteurs de tous horizons et de tous âges. Le défi, selon le recteur, est de les amener à devenir des pèlerins.
La Commission épiscopale pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du Canada vient de publier un texte intitulé « Les composantes de l'évangélisation aujourd'hui ». Rédigé dans le contexte de la société canadienne pluraliste, ce nouveau document de 16 pages s'adresse non seulement aux prêtres, aux personnes consacrées et aux agents de la pastorale, mais également à tous les catholiques qui désirent mieux comprendre et mieux vivre l'appel qu'ils ont reçu à évangéliser le monde aujourd'hui. À la suite du dernier synode des évêques sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, la Commission veut réfléchir sur les défis que présente le pluralisme et sur les effets qu'il entraîne dans la proclamation de l'Évangile. Dans cette réflexion pastorale, la Commission propose une voie qui suit l'exemple de l'Église naissante. Le thème central est celui du témoignage. Ils invitent les chrétiens à agir avec douceur et respect et avec une joyeuse assurance, conscients que le but ultime que nous poursuivons, pour nous-mêmes comme pour les personnes qui nous entourent, c'est la rencontre avec Dieu le Père dans son royaume. « 3000 km, c'est ce qu'ont parcouru dans les 169 jours impartis les participants du Tour de France de l'OCH, la fondation au service des personnes handicapées. Ce Tour de France a donné naissance à un livre, « La marche du ciel », publié aux éditions Mille Regards. L'événement qui s'est déroulé du 28 avril au 13 octobre avait été spécialement organisé pour les 50 ans de la fondation. Cette aventure exceptionnelle devait notamment permettre de créer ou renforcer des liens entre les personnes handicapées et les personnes valides. Paris réussit, comme l'explique Cyril Douillet. Il est le rédacteur en chef d'Ombres et Lumières, la revue chrétienne des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs amis, publiée par le CH.
Ça pouvait passer pour un pari un peu fou, comment boucler 3000 km comme ça avec des personnes fragiles, avec peu de moyens, parce qu'on est le CH, on est une petite équipe de 20 personnes. Et je veux dire que ça a été un vrai succès. D'abord parce qu'au niveau de l'organisation, nous avons pu déléguer l'organisation des étapes locales à des centaines de bénévoles à travers la France qui ont accepté d'organiser un tronçon, d'accueillir chez eux le soir les équipages, de donner un coup de main sur tel ou tel aspect. Donc il y a eu vraiment un élan de générosité incroyable qui a permis que déjà qu'on aille au bout de ce projet. Et je dirais qu'après la deuxième surprise, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a pu avoir sur ce projet. C'est-à-dire que l'alchimie entre des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui étaient réunis par autour de la fragilité, l'alchimie a fonctionné. On a pu voir des gens marcher ensemble avec, pour certains, un lourd handicap, d'autres de l'énergie à donner, des gens de tous les âges, des chrétiens, mais aussi des gens plus éloignés de la foi. Voilà, marcher ensemble, se mettre en route. Au rythme de la personne handicapée, je dirais que c'est ça qui est très important. Pour une fois, ce Tour de France, il n'a pas été dans l'esprit de compétition, mais dans l'esprit de vraiment de marcher ensemble au rythme du plus fragile. Et bien, on constate que ça fait des étincelles, ça fait du bien et il y a de la joie.
Qu'est-ce que ce Tour de France a apporté aux personnes handicapées? Qu'est-ce qu'elles ont retenu?
Pour beaucoup de personnes, c'est d'abord un moment d'exception. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'était une sortie dans le quotidien, c'était une rupture, une façon de changer d'air. Moi, je pense à André, que j'ai rencontré à l'occasion d'une étape à Marseille. André, qui est atteint d'une sclérose en plaques, qui bouge assez peu. Il est en fauteuil roulant, il circule dans son village, mais pas plus loin. Et avec lui, nous avons fait pendant 3 jours un bout d'étape qui lui ont permis de découvrir complètement la région dans laquelle il habite. On a grimpé au-dessus de l'étang de Berre. Il n'avait jamais vu ce point de vue. Donc simplement, au niveau de ces personnes, déjà, le plaisir et le bonheur de faire une randonnée, de voir un peu du pays, ce à quoi elles n'ont pas forcément accès. Ensuite, je crois que le plus important, c'est au niveau des relations. Ce que ce Tour de France a permis, c'est à ces personnes qui sont parfois isolées, de pouvoir créer du lien, de se faire de nouveaux amis. Alors, c'est vrai, parfois, pas forcément, les liens vont pas forcément perdurer derrière le Tour de France, mais il y a quand même quelque chose qui sont passés et beaucoup de gens nous ont dit après, quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir? Et le Tour de France est achevé à Paris, à Notre-Dame, le 13 octobre. Eh bien, nous avions invité tous les participants, on était 3000, et beaucoup simplement étaient revenus parce qu'ils voulaient retrouver les amis qui s'étaient créés pendant cette aventure. Donc je crois vraiment que le grand cadeau de cette initiative, et qu'on ne pouvait pas forcément prévoir à l'avance, c'est ce mystère de la rencontre qui s'est passé, qui change les cœurs.
Et est-ce que ces personnes sont le miroir de nos fragilités, de celles de la société?
Avec une personne handicapée, on fait souvent l'expérience d'une plus grande simplicité, c'est-à-dire que la personne avec un handicap, elle n'a pas choisi son handicap, elle le donne à voir aux autres, elle ne peut que l'assumer. Parfois, pour tout le monde, il est difficile d'assumer ses fragilités, d'assumer sa part sombre, d'assumer ses difficultés, donc on se cache plus ou moins pour paraître bien, pour paraître performant sur tous les plans. Et je crois qu'avec les personnes handicapées, il y a quelque chose qui tombe. La personne handicapée, en fait, nous invite à faire la vérité un petit peu sur nous-mêmes, à être plus simple et à accueillir notre propre fragilité. Alors ça peut être tout un chemin, hein, c'est pas des grands mots, parfois ça prend du temps, mais parce que cette personne avec un handicap a su elle-même accueillir sa propre fragilité, elle nous guide sur ce chemin qui est un chemin d'humanité.
Cyril Douillet, rédacteur en chef d'Ombres et Lumières, interrogé par Audrey Aradondi. Au Vatican, le pape François a reçu ce vendredi matin les gentilshommes de sa sainteté et les sédiari, accompagnés de leur famille dans le cadre des cérémonies traditionnelles d'échange de vœux. S'adressant aux gentilshommes qui ont la charge d'accueillir les personnalités officielles en visite au siège de Pierre et de les escorter dans les palais pontificaux, il les a invités à cultiver la gentillesse et la cordialité pour mettre à l'aise ces personnes. Ces qualités humaines, a-t-il précisé, trouvent leur racine authentique dans une vie animée par la foi qui donne un témoignage de cohérence évangélique sans l'entacher d'aucun comportement de mondanité. S'adressant ensuite aux sédiari, les porteurs pontificaux, il les a remerciés pour la tendresse avec laquelle ils prennent les enfants pour les lui amener lors des audiences générales. Le Saint-Père les a invités à l'humilité, à la simplicité et à l'accueil. Quand il est vécu dans une telle attitude, le travail peut devenir un apostolat, une occasion précieuse pour transmettre la joie chrétienne à ceux qui viennent rencontrer le successeur de Pierre. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne fin de semaine à tous.